Appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci d'avance, oui, chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie en partenariat avec Valeurs Actuelles, L'Incorrect, Le Monde Moderne et Boulevard Voltaire. Pierre-Alexandre Bouclet, donc, pour vous servir après 15 jours d'absence. Et nous allons remercier à l'instant, avant de revenir sur l'Iran, Israël et les États-Unis, pour ceux qui n'ont peut-être pas forcément eu tout le début. Nous reviendrons ensuite sur la mort de Quentin et l'attitude à la fois du système, c'est-à-dire avec ce communiqué du syndicat de la magistrature, mais aussi des déclarations d'une vice-présidente de l'Assemblée nationale et le retour à son poste comme s'il ne s'était rien passé de Robin Chalandard, donc qui a été impliqué dans le meurtre et qui est maintenant redevenu attaché parlementaire de Raphaël Arnaud. Et ensuite, donc, on terminera en disant du mal de la gauche caviar, rappelez-vous, la cérémonie des Césars. Mais donc, avant tout cela, nous remercions un couple d'auditeurs d'Andilly, dans le Val-de-Loise, qui nous envoie 150 euros. Et qui dit veuillez trouver pardon ma contribution 2026 à Radio Courtoisie qui se bat au quotidien pour apporter une information digne et qui maintient la culture française à son excellence. Bravo à toutes les équipes et bonne continuation. Merci monsieur. Enfin merci madame et monsieur d'ailleurs.
Et une auditrice Daisy sur Armancon dans Lyon envoie 100 euros. Bonjour à Radio Courtoisie. Suite à votre courrier, n'ayez crainte, je ne vous quitterai pas en 2026. D'autant que vous êtes mon compagnon depuis plus de 25 ans.
Eh bien écoutez chère madame, merci et merci de votre fidélité. Une auditrice de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, envoie 100 euros pour soutenir le développement de cette radio libre, nous dit-elle. Je remercie toute l'équipe qui contribue à la diffusion d'émissions de grande qualité. Et oui, c'est peut-être même une des dernières radios libres, ou en tout cas, comme le dit avec gentillesse Mathieu Boccoté, c'est la radio libre originelle. Donc merci à vous.
Une auditrice de Masseret, en Corrèze, envoie 200 euros. Fidèle auditeur de deux... Un auditeur, pardon, pourquoi oui. Une auditrice non, un fidèle auditeur de Radio Courtoisie depuis de nombreuses années, Avec le peu que je possède encore, ces 200 euros n'iront pas chez Macron. Et j'espère que vous saurez en faire bon usage.
Eh ben écoutez, cher monsieur, merci infiniment. Et oui, ben nous essaierons d'en faire le meilleur usage possible. En tout cas, sachez qu'il n'ira pas à l'extrême centre. Et nous ferons en sorte de faire partir les éventuels candidats au remplacement d'Emmanuel Macron. Alors, nous revenons à notre rendez-vous de la réinformation. Enfin, nous y venons plutôt. Nous venons de quitter Nicolas Dupont-Aignan. Qui a pu nous parler pendant une heure de son point de vue donc, sur cette actualité un peu débordante. On refait un point, parce que le sujet n'était peut-être pas complètement terminé, sur l'Iran. Donc, pour rappel et pour les auditeurs qui arrivent, et qui ne le sauraient peut-être pas d'ailleurs, s'ils ont vécu dans une grotte les 3-4 derniers jours. Donc, le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran, en visant des sites sur Téhéran et puis dans plusieurs villes. L'ayatollah Ali Khamenei et apparemment une quarantaine de hauts responsables ont été tués, l'ayatollah notamment par une frappe israélienne précisément, dit-on, qui a été guidée par du renseignement américain. Et le gouvernement iranien a répliqué en envoyant des missiles donc vers Tel Aviv, mais aussi vers des bases américaines à Doha, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Bahreïn, et donc ces attaques auraient été déclenchées par Donald Trump et Benjamin Netanyahou, donc le Premier ministre israélien, après des négociations, je cite, infructueuses sur le nucléaire iranien. Il y a intérêt que ce soit fructueux quand on parle à ces gens-là, parce que sinon, je ne donne pas cher de Radio Courtoisie. Alors, en tout cas, donc le président américain a appelé la population iranienne à se soulever contre le régime des mollahs, comme il l'avait fait après la vague de contestation qui avait secoué l'Iran donc au début de l'année 2026. Mais cette fois, apparemment, c'est sérieux, puisqu'il avait dit, quand les malheureux iraniens sont sortis dans les rues et ont été tués, on parle de entre 10 et 30 000 morts tout de même, il avait dit que les renforts arrivaient, puis ils ne sont jamais arrivés. La cavalerie n'était pas venue. Et les Iraniens sont sortis dans la rue, se sont fait tuer, en restant malheureusement sans défense, sans protection, sans rien. Et là, pour des raisons qui lui appartiennent manifestement, et qu'on peut essayer de récapituler, il a décidé que le régime iranien devait tomber. Et il le dit, alors là avec le style de Donald Trump qui est quand même unique, pour make Iran great again, donc, il l'a dit, hein. Et il a dit donc ce processus devrait bientôt commencer, le processus de chute, car non seulement Khamenei est mort, mais le pays a été en un seul jour très fortement détruit, voire anéanti. Ça reste un peu à prouver, ça. Et il a annoncé que les bombardements intensifs et précis se poursuivront toutefois sans interruption tout au long de la semaine, ou aussi longtemps, est nécessaire, ou aussi longtemps que nécessaire, pour atteindre notre objectif de paix. Et là, on met des majuscules. Dans tout le Moyen-Orient et en fait dans le monde entier, j'exprime les majuscules, donc de paix dans tout le Moyen-Orient et de fait dans le monde entier. Là, on se dit quand même, c'est un peu étrange de se dire qu'en bombardant l'Iran, on va mettre la paix dans le monde entier. Ça m'a semblé un peu étrange. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Marie Pinsard, vous n'étiez pas avec nous au début de l'émission.
Non.
Que pensez-vous de cette offensive et de cet objectif de rétablir la paix dans le monde entier avec des majuscules partout?
Alors, rétablir la paix dans le monde entier, bon, c'est un petit peu un concours de Miss France quand même, ou de Miss Univers, là. Hein. Donc, évidemment qu'on veut rétablir la paix dans le monde. Alors, c'est vrai
moi,
que...
Moi, je ne m'en suis jamais soucié, pour être honnête, mais...
La paix dans le monde?
Ben, je ne me suis jamais dit que je voulais mettre la paix dans le monde, personnellement. J'y crois pas, mais bon.
Vous n'avez jamais voulu être Miss France, Pierre-Alexandre?
C'est vrai, vous n'avez pas voulu... Voilà, vous n'avez
c'est
pas
pour
brigué...
ça que vous n'avez pas fait la guerre partout.
C'est vrai. Vous n'avez pas brigué le concours, c'est tout. Non, mais effectivement, la paix dans le monde... On sait que le Moyen-Orient, c'est une poudrière, c'est un véritable millefeuille, et on bouge quoi que ce soit, effectivement, tout l'édifice s'écroule et il en ressort. C'est un tombeau des Danaïdes, en réalité. Alors, le timing de Donald Trump, il est plutôt bon, finalement, puisqu'il profite de cet élan de contestation du mois de janvier, fort durement réprimé pour attaquer l'Iran. Ça peut déconcerter, mais en même temps, il a toujours dit que, de toute façon, il était prêt à établir la paix, même s'il devait engager les États-Unis dans la force. Hein. Il n'a jamais finalement totalement dit qu'il n'allait pas avoir une politique d'ingérence, ou de non-ingérence plutôt. Donc, ce n'est pas complètement anodin au niveau du timing. Mais c'est vrai que cette espèce de millefeuille fait qu'on ne peut pas s'empêcher quand même de penser que derrière l'Iran, et même si pour l'instant ils n'interviennent pas directement, il y a la volonté quand même de venir chatouiller la Russie et la Chine.
Surtout la Chine, j'ai l'impression. Enfin, la Russie aussi, vous me direz, puisque c'est un axe.
La Russie et la Chine, je pense que les deux sont en ligne
droite. La Chine, il y avait un invité ce matin dans Ligne droite, d'ailleurs, qui expliquait que la Chine allait être frappée directement par l'augmentation des coûts du pétrole, tandis que les États-Unis, eux, avaient une réserve assez abondante de plusieurs mois pour tenir. Donc, en fait, il y a peut-être effectivement un coût.
Voilà, et bien, c'est vrai que l'Iran et le Venezuela faisaient partie des tactiques chinoises, d'une part, de se fournir en pétrole. Une grande partie du pétrole vénézuélien n'était pas consommé par les Vénézuéliens, mais était consommé par la Chine. Et par ailleurs, ça faisait aussi partie des tactiques de dédollarisation du marché du pétrole. Et donc, évidemment, on voit bien l'intérêt personnel que les États-Unis peuvent avoir dans cette démocratie exportée. Personnellement, ce qui m'a surtout surpris, c'est qu'une fois de plus, les États-Unis, comme au Venezuela, disent d'une part qu'ils vont rétablir la démocratie, qu'ils font confiance au peuple. Et puisqu'ils font confiance au peuple, eh bien, par exemple, au Venezuela, on va plutôt demander au numéro 2 du dictateur dont on expliquait que c'était une ordure complète. Et donc la fille qui bosse avec lui au quotidien, on l'installe sur le trône. Et en revanche, l'opposante, on explique qu'elle est nulle et que d'ailleurs le peuple ne l'aime pas. Et le type qui avait été élu et dont Maduro n'avait pas reconnu l'élection, on le met aux oubliettes de l'histoire. Et là, même chose en Iran, le camarade Trump nous explique qu'il a déjà 3 personnes qui seront capables de faire en sorte de remplacer l'actuel gouvernement. Alors sur les 3, il y en a sans doute 2 qui sont déjà morts dans les frappes, mais il a déjà prévu de ne surtout pas faire confiance au peuple iranien. Et donc, d'une certaine manière, c'est une vraie leçon de démocratie qui nous est administrée une fois de plus par Donald.
Alors là, on a une petite alerte info d'ailleurs, qui nous dit que des manifestations massives pro-gouvernementales ont actuellement lieu dans les rues d'Iran. Parce que, je ne dis pas que c'est sincère, mais en tout cas, ça veut dire quand même que le régime n'est pas totalement déstabilisé, puisqu'il est encore capable d'organiser des démonstrations de force. Xavier Van Leerde.
Oui, ça rejoint un peu ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on accepte comme un présupposé qu'il y aurait le régime iranien et en dessous l'ensemble du peuple iranien qui voudrait se débarrasser de ce régime. Bon, je pense que malheureusement, c'est pas du tout aussi simple. Hein. Alors, on est obligé de prendre des précautions oratoires. Donc, je trouverais très sympathique que l'on ferme la parenthèse ouverte par la révolution islamique. Ce serait super. Mais néanmoins, une part de réalisme me conduit à penser qu'il est probable que le peuple iranien ne se résume pas à la bourgeoisie de Téhéran et que peut-être que dans d'autres régions, d'autres villes, on ne l'envisage pas tout à fait de la même façon. Enfin, ce sont des différences qu'on peut observer aussi en France, après tout.
Oui, ou même en Hongrie, par exemple, ou dans un certain nombre de pays, et même en Russie, tiens d'ailleurs, où en gros les grandes villes sont généralement plus progressistes que les villes de province, voire la ruralité. Enfin, ça semble le même phénomène.
Et en fait, pour poursuivre le raisonnement, c'est-à-dire que ils nous disent tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, à la fois, on va le faire tomber et j'ai déjà un plan B, mais il dit aussi, je ne ferai pas, excusez-moi de l'anglicisme, mais bon, c'est une notion anglo-saxonne de nation building, donc de reconstruction d'un autre régime derrière, tout en disant qu'il a déjà le gouvernement dans un plan dans sa manche. Donc c'est quand même extrêmement difficile d'y voir clair.
Ouais.
Donc quel est l'objectif de cette guerre? Un peu l'impression quand même, et il y a une déclaration de Trump qui m'a frappé, c'était « Bah oui, on a la plus grande armée du monde, donc on l'utilise ». C'est genre, j'ai un gros jouet, j'ai
ça
un grand bâton,
faire.
Pourquoi je l'utiliserais pas? Mais dans quel but politique? C'est absolument pas évident. Et en géopolitique, renverser la table, on a l'impression qu'il veut renverser la table et qu'ensuite on va voir ce qui va se passer, en quelque sorte. Comme s'il avait été exaspéré par une forme d'immobilisme, et que donc, comme il a un gros bâton, il peut renverser la table, et puis on verra après. Mais en géopolitique, c'est toujours complexe. Donc par exemple, j'ai évoqué moi-même la possibilité que ce soit pour embêter la Chine et la Russie. Pour la Russie, par exemple, c'est pas si évident. Certes, l'Iran est un allié un allié de la Russie, fait partie de, voilà, du sud global que Vladimir Poutine se flatte de séduire. Toutefois, un des problèmes de Vladimir Poutine, c'est d'avoir une relation un peu déséquilibrée avec la Chine. Mais dès lors que la Chine ne peut plus fournir en pétrole ni au Venezuela ni en Iran, si j'ai bien compris, ça fait 20% de son approvisionnement qui s'évapore, ben, ça rééquilibre la relation entre la Chine et la Russie, puisque la Chine va avoir davantage besoin des hydrocarbures russes. Donc vous voyez, c'est... ça semble pas très construit, quoi. Hein. Bien malin qui peut dire, ah bah oui, c'est une erreur, parce qu'en fait, il visait ceci, puis il voulait obtenir cela. Dès lors que, et on le comprend d'ailleurs, comme il ne sait pas très bien ce qui va se passer, il n'annonce pas ses objectifs, comme ça, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas les avoir atteints, puisqu'ils ne sont pas annoncés.
Ils ne sont pas annoncés, oui. Alors, moi, j'avais une hypothèse, je ne sais pas si Alexis Poulain, d'ailleurs, veut réagir à tout ce qu'on dit en ce moment, ou si, je tiens le crachoir. Alors, je vais donner mon hypothèse. Je crois quand même que... on a vraiment cette victoire au sein des MAGA, donc de cet axe plutôt pro-israélien, et que ça emporte réellement les choses, et notamment même dans la décision de tuer Khamenei. C'est quand même Israël qui a, au début, alors Israël a annoncé avoir tué Khamenei sans autorisation et sans prévenir les États-Unis, et ensuite on nous a dit que finalement le missile avait été guidé part de l'information américaine. Alors, je ne sais pas ce qui est vrai, à vrai dire, mais on a eu les deux versions. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une influence et peut-être une tentation d'Israël de mettre les choses devant une forme de fait accompli qui consisterait à dire, voilà, nous sommes dans un engrenage dont on ne peut plus sortir, il n'y a pas de point de non-retour, et maintenant, on est obligé de les éradiquer, ou sinon, c'est nous qui allons être éradiqués, et vous êtes nos alliés, vous ne voulez pas l'éradication d'Israël. Et je crois vraiment qu'il y a une forme d'entraînement, comme le petit teigneux qui embarque le gros costaud, mais qui ne sait pas trop quoi faire de ses muscles. Voilà, c'est mon analyse de la situation.
Oui, c'est une démonstration de force avant d'entamer des négociations. Voilà, c'est faire agir la force pour négocier ensuite.
Non, mais il n'y a plus de négociations à avoir, ils ont tué tout le monde.
Non, mais pour imaginer...
J'avais un régime pour négocier.
Non, mais je suis d'accord. Mais là, ils veulent couper la tête, effectivement, pour ensuite négocier avec ceux qui sont, on va dire, les modérés du régime. Puisqu'il y a quand même le gardien, c'est le gardien de la révolution et non pas le gouvernement qui est tombé, là.
Oui. Ouais. Alexis Poulain ?
Moi, je ne pense pas que c'est forcément le changement de régime qui est visé, honnêtement. D'ailleurs, Trump le dit, on en avait trois sous la main, mais bon, ils ont été tués aussi dans les bombardements. Donc je pense
c'est ballot.
C'est ballot. Et
pour des missiles précis à 2 mètres, en plus, c'est dommage.
Ouais, mais ce n'est pas Reza Pahlavi non plus qui est dans les petits cartons, un peu comme Machado au Venezuela a vu passer sous le nez.
Vous croyez que ça n'est pas Pahlavi ?
J'ai pas l'impression.
Pahlavi n'a pas fait partie des noms cités par Trump.
Voilà, voilà.
Alors donc, que Pahlavi clairement... fait partie des noms cités par Pahlavi.
Pahlavi voilà. Fait partie alors, des noms cités par les Iraniens.
Par les Iraniens.
Et un peu les Iraniens, mais beaucoup Israël aussi, qui a fait une campagne, notamment numérique, hein, pour faire monter Pahlavi sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il y a plusieurs phases dans cette opération de déstabilisation. Et puis aussi un peu peut-être une répétition générale pour compter ceux qui répondent présents chez les vassaux. Parce que ce qui me fait extrêmement rire dans cette situation, même si elle est tragique, c'est de voir qu'il y a quelques semaines, Merz, Starmer, Macron n'avaient pas de mots assez durs pour dire combien Donald Trump était un autocrate dangereux pour les intérêts européens. Et à peine les premiers avions et les premières bombes lâchées sur l'Iran, ils sont tous derrière à dire « Évidemment, on est là, comptez sur nous, cher Donald ». D'ailleurs, il n'a répondu à personne au téléphone, mais on voit bien que la vassalité va au-delà de ce que Trump pouvait espérer vis-à-vis de ces petites marionnettes européennes.
Il y a quelque chose qui m'a particulièrement plu chez Ursula von der Leyen, c'est Israël.
Je la mentionne même pas.
Israël et les États-Unis donc décident de bombardir l'Iran de manière préventive. Et l'Iran décide de bombarder les pays où il y a des bases américaines. Et Ursula dit, ouais. Ce sont des frappes totalement injustifiées. Ok, voilà. Très bien. Voilà.
Merde, parce que ça fait la même chose.
Avant, c'était tout à fait justifié. Le concept de frappe préventive israélo-américaine est particulièrement bienvenu, conforme au droit international et à tout ce que Thierry Breton défend. Je le salue au passage. Et en revanche, évidemment, le fait d'aller attaquer les bases à partir desquelles des F-15 qui ne seraient pas supprimés bêtement par l'Arabie Saoudite en cours de vol pourraient décoller, là, en revanche, c'est mal.
Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que les frappes préventives, ça c'est bien. Et ensuite, les bombardements non provoqués de l'autre côté. Et alors, le sommet orwellien a été atteint aujourd'hui quand même avec Pete Hegseth, secrétaire d'État à la guerre, qui explique que cette guerre, elle n'a pas été provoquée par Donald Trump, mais c'est lui qui va
y mettre fin. C'est bien ce qui est embêtant. Parce que on se demande qui a provoqué cette guerre, en fait. La vraie question est là.
Il y a une déclaration dans le même genre absolument délirante, à entendre en tous les cas, de Donald Trump, qui explique que les États-Unis vengeront leurs trois morts. Ça avait commencé par ça.
On est dans un grand cirque avec en plus l'avion du président français escorté par quatre rafales en plein réchauffement climatique. Je ne sais pas si c'est très
carbone,
raisonnable au niveau du bilan carbone. Je ne suis pas persuadée qu'on soit bon.
Oui, mais l'Union européenne vient d'interdire les petites bouteilles de shampoing dans les hôtels.
Alors on a un article.
Ça veut dire ce qui est quand même tragique, c'est que nous ici tous les cinq soyons de simples commentateurs. Ça peut tout à fait se comprendre. Nous sommes des journalistes, on est payés pour commenter. Voilà,
absolument.
On n'est pas payés plus exactement pour commenter. Mais vous remarquez qu'il n'y a pas une énorme différence entre le pouvoir que nous avons nous autour de cette table et celui de nos dirigeants dépourvus d'aucune souveraineté, aucune stratégie, aucune vision. C'est-à-dire que on peut être à la fois Alexis Poulain, Xavier Van Lier, Pierre-Alexandre Bouclet ou Emmanuel Macron ou Jean-Noël Barrot, ça change pas grand-chose en réalité. Il n'est pas plus prévenu de nous des buts de guerre, ni de son déclenchement.
Je sais pas si on doit être flatté ou inquiet.
c'est inquiétant. Non mais c'est extrêmement inquiétant de voir où nous en sommes rendus. Nos chefs d'État ne sont plus eux-mêmes que des commentateurs.
Mais Macron le dit, c'est-à-dire qu'il n'essaie même pas de le cacher. Il dit nous n'avons pas été prévenus comme tous nos associés.
Ouais.
Enfin, voilà.
Ouais.
Il n'ose même pas de dire que non, en fait, essaye d'embellir la situation. C'est lamentable.
Ouais. Alors, il y a cette déclaration aujourd'hui du groupe E3, qui nous dit donc qu'ils vont de manière préventive détruire l'arsenal iranien. Et ça, donc, c'est cette déclaration, le groupe E3, donc j'avoue encore une fois avoir découvert l'existence aujourd'hui, qui réunit la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et alors, j'avoue ne pas comprendre comment on va détruire de manière défensive, pas préventive, de manière défensive l'arsenal iranien. Ça veut dire quoi ?
Mais en plus, on n'en a même pas les moyens, si vous voulez. Donc, en fait, c'est très simple. Ce qu'on vient de découvrir là, c'est que non seulement nous ne pouvons pas définir une politique alternative, parce qu'on n'en a ni l'intelligence stratégique, ni les moyens, mais les États-Unis n'ont pas besoin de nous comme alliés non plus. En réalité, nous ne comptons absolument pas. Et s'il y a quelque chose, sans même définir une politique à venir, il faudrait commencer par se redonner les moyens de la puissance, et ce qui permettrait peut-être de réfléchir, parce qu'il y a peut-être une hypothèse, c'est qu'on ne réfléchit plus à rien, parce que de toute façon, comme on n'a pas d'instrument, ben ça sert à rien de réfléchir à tout ça. Quand on est ramené au niveau de quelque chose qui est de l'ordre du président de conseil régional à l'échelle du pays, certes, ben ça sert à rien de s'embêter avec des grandes considérations stratégiques.
J'ai cru que vous alliez dire au niveau du président de Radio Courtoisie. J'aurais été vexé.
Non. Nous sommes un peu désemparés quand même.
Ouais. Alors, je crois qu'il y a quelques messages d'auditeurs.
Oui, juste une réflexion. L'Allemagne en 1944-45 avait un soutien populaire, donc 40 ans d'islamisme avec propagande a sans doute bien encadré la population. Le seul qui aurait pu avoir un espoir d'un intérêt politique, n'est-ce pas Bibi, qui rêvait donc Benjamin Netanyahu, qui rêvait d'apparaître comme le sauveur qui a éliminé l'ennemi de toujours? Et Trump n'a-t-il pas agi un rien contraint, un rien trompé sur la facilité prévue de l'opération Epstein? Donc voilà, donc c'est, ça, beaucoup de gens expliquent.
L'opération Epstein.
En fait, beaucoup de gens expliquent que, étant donné tout ce qu'il y a dans les dossiers Epstein et qui n'est pas encore révélé, une partie de. Et que, étant donné que M. Epstein est censé être un agent du Mossad, du coup, les Israéliens auraient barre Donald Trump.
Alors ça, j'en ai pas le quart d'une idée. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas quelque chose, à mon avis, qui va rendre Trump populaire aux États-Unis, cette guerre. Parce que pour le président de la paix qui voulait être non interventionniste.
Tout dépend de l'issue aussi. Faut pas oublier que les États-Unis, ce sont à chaque fois que les États-Unis sont allés au Moyen-Orient, ils sont mis dans un bourbier pas possible. Peut-être que là, c'est la tentative de la dernière chance, c'est-à-dire que c'est l'idée que, et d'où peut-être les déclarations à géométrie variable, il essaie de sentir un petit peu où va le vent pour. Il ne dit pas clairement, on sait bien que derrière, c'est la question du nucléaire, c'est le pétrole. Je pense qu'il n'est pas, il prend pas trop de gants en réalité pour dire que oui, alors il enrobe ça avec un petit peu de la paix dans le monde, mais en réalité, il sait très bien que personne n'est dupe. Mais peut-être que ça peut le réconcilier aussi avec une partie des Américains en cas d'une certaine victoire, en cas de l'installation notamment d'un régime qui se voudrait supposé modéré.
En Afghanistan, en Irak, en Libye.
L'idée, c'est qu'il réussirait là où les autres présidents ont échoué. Parce que ça reste quand même, quoi qu'il en soit, ce tour de force, cette épreuve de force, ça reste quand même quelque chose que les Américains aiment, malgré tout.
Alors, il y a une étude que j'ai... j'ai lu un sondage, pour être honnête, ce matin, qui est paru aux États-Unis, dont j'avoue avoir oublié l'intitulé, mais le résultat, et ce qui m'a le plus intéressé, c'est que plus de 60% des Américains disent qu'ils n'approuvent pas Non, qu'ils approuvent la défaite de l'Iran et la chute du régime, mais qu'ils réviseront leur point de vue si jamais le prix du baril de pétrole devait augmenter, puisque forcément, ça voudrait dire que le plein de leur SUV augmenterait considérablement. Donc, c'est pas loin de ce que vous dites, Marie Pinsard. Mais ça tient quand même, cette ferveur de défense des droits de l'homme et autres trucs, tient quand même au prix du plein d'essence. Cette franchise américaine, moi, m'épate toujours. Je trouve ça formidable.
Mais on est quand même dans des visions... on est quand même dans des visions messianiques de part et d'autre. Il y a quand même des visions messianiques de la part d'Israël. Il y a une vision messianique aussi de la part de l'Iran, c'est une république islamiste. Et puis, il y a une vision messianique de la part des États-Unis, malgré tout. Donc, on est quand même dans une guerre aussi de civilisation, une guerre de titans. Et ça, c'est à prendre en compte.
Alors, il y a un point à prendre en compte aussi, quand même, c'est que néanmoins, la chute de ce régime immonde en Iran ne devrait quand même pas nous tirer trop de larmes. Et d'un certain point de vue, et je me fais un peu l'avocat de la partie qu'on semble un peu plus critiquer, mais en même temps, pour parler comme le président, quel régime horrible, abject, qui fait 10 ou 30 000 morts dans ses rues en tirant à l'arme à feu sur des civils. Je ne vois pas comment on peut, après tout, continuer de se dire, tiens, pour faire barrage à l'axe américano-sioniste, il faudrait que ce régime se maintienne. Après, peut-être qu'est-ce qu'il faut voir simplement l'intérêt français dans tout ça.
Oui, puis peut-être que c'est là, je l'ébauchais tout à l'heure, mais peut-être que voilà, en 79, il s'est passé quelque chose. C'est quand même le début d'un vaste mouvement... de déversement de l'islam politique dans le monde, peut-être que la chute de ce régime peut être vue comme la fin de ce cycle-là, de ce cycle historique-là. Il y a un débat là-dessus, je crois que...
Oui, parce que donnerait un Iran débarrassé de l'islamisme ? Parce que, honnêtement, la religion chiite, là, donc l'islam chiite, pareil, d'après ce qu'on nous dit, j'ai pas mis le pied en Iran, mais d'après ce qu'on entend des gens qui y sont, ou des gens qui connaissent vraiment la région... les mosquées sont vides, par exemple, encore plus vides que les églises catholiques. Tellement
Téhéran.
Comment ?
Téhéran.
Apparemment dans les grandes villes, mais même en province.
50 000 mosquées sur 75 000 sont supposées être vides en Iran. Il n'y a pas 75 000 mosquées à Téhéran.
Donc ça s'est discrédité. Il y a un vent de discrédit terrible. Et d'un certain point de vue, un Iran. Désislamiser, enfin dans la mesure du raisonnable et du possible, dans quelle mesure est-ce que ça ne fait pas l'intérêt de la France, après tout ? Pardon de prendre Arbrousse.
Est-ce que du coup, on retrouve nos industries, tout le reste ou pas ?
Ouais, c'est ça. Ça laisse aussi la place...
Est-ce que ça fait partie du pack ?
Oui, ça laisse aussi la place au sunnisme.
Pas sûr. Je pense qu'ils ne veulent plus du tout. Parce qu'il n'y a pas vraiment de sunnites en Iran, il n'y en a pas.
Non, mais oui. Justement, c'est, oui. Enfin, ah, oui. Au niveau mondial, non.
Ah oui, au niveau mondial, oui.
L'Iran,
oui, oui, ça, c'est sûr. Oui, oui.
Ils font figure de la plus grande force chiite, avec d'ailleurs...
L'Azerbaïdjan, qui n'est pas très religieux, mais...
Voilà, ouais. Donc, et c'est vrai que cette tendance de l'islam peut paraître rigoriste, mais elle est moins prosélyte, malgré tout, que le sunnisme.
Oui.
Est-ce que c'est...
Elle a une manière de financer le terrorisme qui est un peu gênante.
Voilà. Qui est différente. C'est une approche un peu différente. Les monarchies du Golfe, par exemple, ce sont des sunnites. Les pays du Maghreb, ce sont des sunnites. Il y a aussi derrière ce vieil antagonisme entre ces deux grandes forces de l'islam. Et là, c'est représenté par l'Iran, qui est le modèle chiite par excellence. Une bonne nouvelle, évidemment, de se débarrasser d'un régime aussi autoritaire, oui, mais je pense que c'est aussi aux Iraniens de décider. Parce que renverser un régime, oui, mais il faut le faire avec le peuple. Et pas en dépit du peuple iranien qui une grande partie des Iraniens qui sont jeunes, qui sont plutôt éduqués, c'est un peuple quand même moderne, même si effectivement il y a une grande différence entre les villes et les campagnes, mais bon, comme en France aussi, hein, la province c'est pas les Champs-Élysées ou Saint-Germain-des-Prés.
Donc, heureusement pour la campagne.
Mais malgré tout, il y a une grande partie de cette jeunesse qui est éduquée, qui a pour modèle, alors pas uniquement, mais l'Occident, peut-être un Occident beaucoup plus light, hein, voilà, mais avec des valeurs, les valeurs de l'islam. Donc ça peut aboutir à quelque chose, à une grande nation, parce que l'Iran est une grande nation, une vieille civilisation, donc ça peut donner quelque chose de très intéressant à observer. Est-ce que l'Iran ne va pas devenir, dans une dizaine d'années, une des grandes forces avec laquelle, d'ailleurs, la France pourra peut-être dialoguer?
Eh bien écoutez, puisque de toute façon nous sommes réduits au rang d'observateurs, observons.
Observer l'essor d'un nouveau rival éclairé, diplômé, avec des ingénieurs à foison, capable de créer une industrie des drones tout en étant sous sanction. Oui, effectivement, il y a du potentiel.
Non, mais le droit international, il y a des géométries très variables. Hein. Je suis désolée, mais on en fait un petit peu ce qu'on veut du droit international. Il y a un moment, le désarmement nucléaire, c'était à la mode. Là, maintenant, visiblement, on peut s'en douter.
Là, maintenant, c'est fini.
On l'utilise, on ne l'utilise pas. Donc, moi, je crois plus au traité entre les pays qu'à un droit international qui est à géométrie très, très variable, dont on peut se torcher assez facilement avec et qui arrange, en fait, pardon hein, pour cette expression qui n'est peut-être pas très élégante.
Mais elle est très française.
Mais qui est très française.
Vous avez prononcé timing deux fois et on vous a parlé beaucoup plus
loin. Donc,
merci pour torcher.
Voilà, j'ai voulu mettre torcher parce que j'ai mis timing. Hein, donc, voilà, je me suis dit, oups. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs, mais toujours est-il que, oui, ce droit international qui vient réguler et dire bien, pas bien, mais alors là, mais à quel moment il fonctionne? Quand est-ce qu'il a fonctionné?
Ah ben ça, il ne fonctionne plus, ça c'est terminé.
Bon, voilà,
là, c'est bien visible.
Là, c'est fini.
Partant de ce principe que les Iraniens utilisent la force qu'ils souhaitent, on ne peut pas leur empêcher. On ne peut pas les empêcher.
Non, mais personne ne parlait de ça. Hein.
Oui, d'accord. Ah bon, j'ai cru que...
Ah non, au contraire. Non, Xavier Van Lier soulignait, à juste titre, la performance industrielle qui consiste à avoir une industrie d'armement alors que... La monnaie s'écroule à cause des États-Unis et que les sanctions font qu'il est compliqué de se procurer des pièces, etc.
Vous êtes surtout en train de me demander à qui vous répondiez.
j'ai mal compris, je suis désolée, je sors d'une journée
c'est pas grave.
Un peu difficile.
Il y a une deuxième chance, on va passer au meurtre de Quentin.
Il y a peut-être une dernière leçon à tirer de tout cela, c'est qu'on a un peu tendance, en observant les tumultes et le chaos dans le monde, à se dire que notre avenir en dépend, alors que notre renaissance et notre capacité à réexister, non seulement sur la scène internationale, mais pour nous-mêmes, dépend avant tout probablement de réformes intérieures. C'est-à-dire que notre avenir ne dépend pas de ce qui va se passer nécessairement en Téhéran, vous voyez ce que je veux dire?
Non, non, il va se passer au contraire,
c'est
des choses qui se passent chez nous.
Entretenue. je pense, par le système de focaliser l'attention des Français sur ces histoires-là plutôt que sur des choses extrêmement concrètes qui les concernent.
Oui, c'est-à-dire
que je ne voudrais pas que l'élection présidentielle se joue sur qui pense que Trump a raison ou pas raison ou ceci, cela. Et je voudrais même pas que ça brouille les élections municipales. C'est-à-dire qu'on a quelques enjeux assez plus prégnants ici et maintenant. Chez nous, je ne voudrais pas qu'il passe au second plan, parce que c'est quand même une grande spécialité aussi. Hein, un coup, c'est l'Ukraine, un coup, c'est... Voilà, et pendant ce temps-là, on ne regarde pas la désindustrialisation, le chômage, la démographie qui s'effondre, l'immigration qui explose, etc. etc.
Les libertés qui s'éteignent. Oui, alors on va revenir justement, parce qu'il nous reste une petite vingtaine de minutes, et c'est quand même un sujet qui compte. Donc, les suites du meurtre de Quentin, Quentin de Ranc, j'ai été un peu étonné d'un communiqué du syndicat de la magistrature, puisque donc ce communiqué étonnant et en langue inclusive déplore donc non pas la violence de rue, après tout des juges pourraient s'inquiéter de ça, non pas le fait que des personnes mises en examen pour meurtre en réunion quand même reviennent travailler à l'Assemblée nationale, des juges auraient pu s'inquiéter de ça aussi, ou que certains citoyens français aient totalement perdu des notions comme le respect de la loi ou la crainte de la justice. Au point de se livrer donc à des lynchages qui illustrent un ensauvagement du pays. Les juges auraient aussi pu s'inquiéter de ça. Et donc j'ai été un peu étonné donc, que ce syndicat de la magistrature, face au meurtre de Quentin, donc, déplore l'attitude des médias et des politiques, ce qui me semble moyennement l'affaire d'un juge, et s'inquiète, je cite, hein, je vais vous lire une partie de ce communiqué parce qu'il est hallucinant. Que les digues cèdent face à la montée des idées fascistes dans l'indifférence générale et qu'ils dénoncent le danger que représente l'extrême droite. Et j'avoue que, pour rester dans les métaphores de Marie Pinsard, ça m'a un peu perforé le fondement. donc, c'est poli. C'est français.
C'est français. Impeccable.
Merci.
Rien à redire.
Merci. Donc, je vous lis quand même quelques passages. Le 14 février 2026 à Lyon, un militant lié à l'extrême droite est décédé à la suite d'un affrontement. Déjà, c'est faux. Il a été lynché, poursuivi, lynché, frappé au sol et tué. Les circonstances de cet événement d'une violence intolérable, merci, sont encore à déterminer par le travail d'enquête sous la direction des juges d'instruction. Bon, on a quand même des vidéos. Alors que les magistrats, et les magistrats hâteux, ont besoin de sérénité pour œuvrer, nombre de responsables politiques se sont empressés, et ES, de désigner des coupables avant l'heure. Alors, les auditeurs de Radio Courtoisie me pardonnent, je vais effacer l'inclusivité du texte, parce que sinon c'est un peu pénible. Et le ministre de l'Intérieur s'est autorisé à établir des responsabilités avant même la prise de parole du procureur de la République. Bah, c'est quand même hallucinant qu'on nie à un élu, à un type qui est quand même le ministre de la Justice, le droit de s'exprimer librement dans un pays avant un procureur. C'est quand même hallucinant, cette manière qui illustre à quel point, mais je vous laisserai peut-être le dire, les juges pensent avoir mis la main sur le système politique français, en fait, et sur la démocratie notamment. Toute la semaine, donc, le débat a été traversé par des instrumentalisations incessantes. Ces récupérations, je cite toujours le syndicat de la magistrature, particulièrement médiatisées, ont préparé le terrain, et c'est là que ça devient marrant, au spectacle sidérant auquel nous avons assisté, des groupuscules d'extrême droite, dont certains assument de recourir à la violence, et là on se dit, putain, pardon, mais c'est quand même hallucinant, cette inversion accusatoire, dont assument de recourir à la violence pour contester la démocratie, l'état de droit et l'égalité de tous et toutes devant la loi, ont défilé dans les rues. Certains membres du cortège ont tenu des propos racistes et homophobes, des saluts nazis ont été observés, ça reste à prouver. Et force est de constater donc l'absence de réaction des autorités garantes de nos libertés fondamentales, les mêmes qui contribuaient quelques jours auparavant au vacarme ambiant. C'est quand même hallucinant de parler de vacarme ambiant quand des gens protestent contre l'assassinat de quelqu'un, parce que quoi qu'on reproche d'ailleurs aux jeunes qui ont défilé en hommage à Quentin, apparemment il n'y a pas eu la moindre violence. Donc ça c'est quand même déjà un point.
Mais pas apparemment, il n'y
en a pas eu. Oui. Et à l'heure du bilan, nous dressons un constat glaçant. Les digues cèdent face à la montée des idées fascistes dans l'indifférence générale. Le syndicat de la magistrature, dont on se demande ce qu'il vient faire là, continuera de dénoncer les compromissions face aux dangers que représente l'extrême droite et s'inquiète de l'effacement croissant des garants de la démocratie, etc., etc., blablabla. Voilà, ça me semblait important de le lire pour vous, donc les ayatollahs de la réinformation, mais aussi pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ce communiqué qui n'est pas du Gorafi, hein, c'est authentique.
Bah, on sent à quel point la justice va être impartiale et neutre, en tout cas.
Ouais, c'est ça.
Oui, alors je dois avouer que c'était ma principale conclusion. Merci d'y venir tout de suite. Ça fait peur.
Ils n'entendent plus.
Pardon ?
Ils n'entendent plus non plus.
Ils n'entendent plus, nos amis. Alors, on a un problème de son, je crois que... Xavier Van Lierde, vous nous entendez ?
Maintenant, oui.
Maintenant, oui. Alors, avec Richard de Sèze, tels les Dupont et Dupont ou les deux vieux du Muppet Show, on se disait...
voilà.
C'était... inquiétant, ce communiqué.
Achille et Patrocle, non, sur... le Muppet Show. Ok, bon. Ça...
sur la manière dont la justice pourrait être rendue en France si jamais nous avions l'occasion de nous retrouver devant un tribunal.
Vous voulez dire cette même justice qui a, je ne sais plus combien, le magistrat pédophile là, qui prostituait sa fille, il a pris combien déjà ?
Pas grand-chose. Hein.
Oui, pas grand-chose.
Hein, il n'a pas fait de prison.
Il n'a pas fait de prison.
Non, c'est du sursis déjà, ouais. Il n'a pas fait de prison. J'ai envie de dire que tout est dit. Enfin, j'ai rien que cet exemple. What else?
What
Là, il ne faut pas...
Là, il y a un cochon. Il faut mettre un euro, là. Xavier Van Lierde.
Ce que dit le syndicat de la magistrature, c'est que son rôle, c'est de faire barrage. Il se vit comme une digue. Une digue contre l'extrême droite, mais en réalité, derrière ce qu'ils appellent l'extrême droite, il y a juste le peuple français et ses aspirations.
Et une digue,
c'est ça qu'il nous explique.
Une digue, Xavier Van Lierde, sur lequel a été tagué le mur des cons. Parce qu'il faut se rappeler que c'est quand même.
Oui, bien sûr, mais, je voudrais poursuivre. Le syndicat de l'administration explique qu'il est une digue et un barrage contre les mauvais penchants du peuple qui pense et qui vote mal. Mais en réalité, il n'y a pas que le syndicat de la magistrature qui se vit de telle façon. Le Conseil constitutionnel se vit également comme une digue et un barrage contre les mauvais penchants du peuple et même de ses représentants, puisque s'il a le malheur de prendre une loi qui ne convient pas à l'idéologie dominante, eh bien, il la bloquera. De même, le Conseil d'État et en réalité l'ensemble des institutions. C'est-à-dire que ce communiqué, en quelque sorte, révèle la véritable nature des nouvelles institutions qu'on met derrière l'expression État de droit. Et la nature de ces institutions, eh bien, c'est d'être une sorte de superstructure dont le but principal est désormais d'empêcher le peuple de reprendre son destin en main et d'imposer son idéologie à tout, de toute force. Voilà. Donc on est sorti absolument. C'est pas que un problème d'un syndicat qui serait plus à gauche ou d'extrême gauche. C'est il révèle l'ensemble des institutions. Et je pense la même chose de la Jeune Garde et la façon dont l'ensemble des institutions se mobilisent pour assurer.
On va y venir après. Ouais, ouais, ouais.
L'immunité de ces gens-là, non pas ceux qui ont frappé pour de bon. Ceux-là vont être sacrifiés comme des lampistes, c'est probable, pourront pas faire autrement. Mais en revanche, la Jeune Garde comme institution et ce mouvement-là, mouvement Antifa, bénéficient quand même de toutes les mensuétudes parce que tout ça forme système. C'est-à-dire qu'il y a, face au peuple, il y a à la fois les juges et les nervis et les journalistes. Et une partie de l'université, etc., etc., etc.
Voilà. Alexis Poulain.
Le syndicat de la magistrature est connu pour ça. Enfin, c'est clairement un syndicat avec une couleur politique très forte. Mais globalement, ça pose la question effectivement de toute un corps de métier, une profession qui décide de faire arbitre des élégances au-delà de juges en réalité. Et on l'a vu, et c'est ça qui m'inquiète au plus haut point, lors des campagnes présidentielles, avec le PNF, hein, qui a été cet outil formidable de la Hollandie contre Fillon, qui a permis à Macron d'arriver, de faire cette entourloupe, hein, il n'y a pas d'autre mot en réalité. Et on voit bien la justice aussi dévoyée maintenant avec des lois. C'est-à-dire que c'est un travail d'équipe. Vous avez les députés de cette fausse majorité macroniste qui font des lois de plus en plus folles et dangereuses pour nos libertés. Je pense aux lois, par exemple, contre le cyberharcèlement, contre les discours de haine en ligne, qui sont dévoyées, utilisées en réalité pour faire taire une opinion populaire ou des groupes politiques. Et puis, évidemment, le DSA, qui est encore pire. Donc, les juges sont complices et se sont devenus des censeurs. Il n'y a pas de justice, en fait, dans ce qui est en train de se passer. Et c'est extrêmement inquiétant de voir cette justice politique qui s'assume, qui n'a même pas honte, en réalité, d'être une justice politique et de faire des choix qui vont engager le pays au nom de, bah, de certains qui pensent comme il faut bien penser. Voilà.
Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils peuvent également bloquer un pays? Imaginons un scénario qui est objectivement un scénario aujourd'hui envisagé à très haut niveau, puisqu'on voit bien que comment Emmanuel Macron fait pour cranter le régime et faire en sorte qu'un gouvernement RN ne puisse plus réellement gouverner. Est-ce qu'on ne peut pas avoir peur aussi de magistrats qui bloquent, qui fassent un blocage littéralement du pays?
Vous savez, il y a déjà la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel qui pose un grave problème, hein, vu la proximité qu'il a avec Emmanuel Macron. Et puis, si vous regardez une fiction comme Baron Noir, je ne sais pas si vous aviez vu, hein, avec cette histoire d'un candidat PS qui revient, et arrive le deuxième tour, et c'est un candidat populiste qui gagne. Et alors, la fin heureuse, désolé, hein, je gâche un peu pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais en gros, pour le camp du bien, il faut faire un coup d'État et empêcher le deuxième tour et annuler ce deuxième tour avec une entourloupe légale pour quand enfin, un socialiste reste au pouvoir. Voilà. Et on a un problème en France, ça s'appelle le Parti Socialiste, c'est l'État profond, et on n'a pas encore réglé ce problème.
Ouais. Marie Pinsard, un mot là-dessus?
Un mot là-dessus, oui. Non, bah, je suis évidemment d'accord avec nos intervenants. Et on peut observer aussi le paradoxe d'une culture de l'excuse aussi au sein des prétoires que les magistrats pratiquent, où le moindre délinquant a toutes les excuses possibles parce que, je ne sais pas, il a eu une enfance difficile ou il a eu des mauvaises notes à l'école. Mais là, visiblement, il y a des victimes qui, eux, n'ont pas le droit à cette mansuétude.
Alors, Quentin, j'ai quand même beaucoup entendu ou vu sur les réseaux sociaux, mais même des gens d'extrême-gauche, dire en gros... fallait pas être là, quoi. On savait qu'il allait se faire tuer, donc il n'y a aucune raison. Pourquoi être venu? Puisque de toute façon, si on va manifester pacifiquement devant des antifas, on risque de se faire tuer. C'est quand même invraisemblable de réduire ça, en fait, à la faute à pas de chance, quoi.
Et à un manque de jugeote, surtout. C'est ça qui est formidable. Il est établi que les antifascistes sont violents, il est établi que la rue leur appartient, donc il est bien normal de ne pas venir les chatouiller.
C'est comme de dire à une fille, ta jupe est trop courte. Voilà, c'est exactement ça. Alors évidemment, c'est moins audible, mais c'est tout à fait ça.
Xavier Van Liert.
La réalité est encore pire, puisqu'il est établi qu'il y avait entre la mairie de Lyon,
l'adjoint
de la mairie de Lyon et ces groupes violents d'extrême gauche, un partenariat fait pour en gros se partager les rôles de façon à exclure de l'espace public ce qu'ils appellent les fachos, c'est-à-dire à peu près tout ce qui se trouve à la droite de Clémentine Autain, voilà, ou d'Antoine Léaumont. Donc enfin et la mairie de Lyon. C'est une mairie donc de couleur écolo, mais qui sociologiquement représente des strates de la population. Ce ne sont pas que celles des masses bolcheviques initiales, vous voyez. Donc c'est aussi comme ça que tout cela forme système.
Ah bah d'ailleurs,
lorsqu'on dit l'extrême gauche est violente, on n'épuise pas le sujet du tout.
Et d'ailleurs, les parents des jeunes gens impliqués dans le meurtre sont généralement des gens de très très bon niveau social et plutôt, on ne les imagine pas révolutionnaires sans culottes. Hein. On a des gens qui ont été producteurs dans le cinéma.
Mais c'est facile. Des
lecteurs de Libération et de Télérama.
Oui.
Mais c'est facile d'être révolutionnaire avec l'argent de papa.
Ah bah oui. Alors,
confortable.
Un qui gagne bien son argent, donc c'est Robin Chalandard. Puisque, on l'a appris presque par hasard par un compte X qui s'appelle le Collabot. Donc, rien à voir avec le maréchal Pétain, cher à M. Delogu, mais c'est une espèce de compte qui pointe de manière extrêmement mécanique, et d'ailleurs en écriture inclusive, les recrutements et les départs de collaborateurs parlementaires. Et le 27 février, donc à peine sorti de détention, et parce qu'il est mêlé, encore une fois, au meurtre de Quentin, Robin Chalandard, qui est en plus fiché S, a été rembauché par le député LFI Raphaël Arnaud, qui était son patron avant la mort de Quentin et qui le redevient donc maintenant. Son contrat donc, avait été rompu après sa mise en examen autour du 20 février. Et là, il est à nouveau collaborateur parlementaire, salarié de Raphaël Arnaud. Et on a, pour accompagner cette nomination, enfin ce retour à l'Assemblée, Nadège Abomangoli. Alors je ne dirai pas d'où elle est originaire, je n'en sais rien, je ne veux plus savoir maintenant, qui est quand même vice-présidente de l'Assemblée nationale, et elle est membre de LFI, donc vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui a dit qu'elle refusait, je cite, la compassion obligatoire envers Quentin Derenque, et que, en gros, la jeune garde était composée de jeunes gens fort bien. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça vous inspire, il nous reste 3 minutes pour en parler, chacun un mot peut-être sur ça, mais comment expliquer peut-être cette incroyable indulgence dont bénéficient des gens impliqués dans le meurtre de quelqu'un, quand on imagine comment un collaborateur parlementaire du RN à Belfort se fait exclure de son parti parce qu'il dit qu'il y a trop de prénoms musulmans dans la ville où il est présent.
Bah oui, le contraste est quand même absolument extraordinaire.
Il est contrasté, le contraste. Oui.
c'est extraordinaire de voir la façon, mais là, dont d'un
mais
côté...
Mais les médias aussi, hein, Xavier. C'est-à-dire, il n'y a pas que oui. Le parti, il y a aussi l'entourage. C'est-à-dire que...
Oui, bien sûr.
Quand ce jeune gars du RN va dire ça, les éditorialistes...
De toute façon, le RN, si on lit Jacques Bainville, on est condamné, si vous voulez. Donc,
oui. Donc je ne sais pas. Ben, comment vous expliquez ça
Le camp du bien,
c'est... Ça ne me l'explique plus.
Je crois qu'à un moment donné, il y a une bataille qui a été gagnée, c'est celle du champ sémantique, où d'un côté, on a le camp du bien, et de l'autre, les fachos. Et je crois que cette bataille...
Et le camp du bien a gagné, alors?
Bah, le camp du bien, on lui autorise, de cette liberté ou la mort, hein, on lui autorise bien des choses par rapport au fascisme. Alors le fascisme, évidemment, la définition est de plus en plus vague.
Ah bah maintenant, Macron
politique.
Est un fasciste, hein, il faut le savoir.
Macron donc, est facho, d'ailleurs c'est même pas fasciste, c'est facho, donc facho, c'est oui. Encore, voilà, c'est quand même une petite subtilité. Non, c'est une bataille sémantique qui a eu sa victoire, voilà, donc...
Il l'a gagné.
Xavier, pour conclure en 30 secondes.
Cette bataille est d'autant plus facilement gagnée par les adversaires que faute de combattants en face pour une large part. C'est-à-dire que je ne peux que constater que, de son côté, le Rassemblement national riposte très peu.
C'est vrai, très peu. Plaisir, oui.
Pour reprendre l'expression de Jean-Yves Le Gallou, je pense que c'est ce qu'il aurait dit s'il avait été là, il faut diaboliser les diabolisateurs. Et cette méthode-là n'est pas utilisée. C'est-à-dire qu'ils prennent des coups, ils tentent de temps en temps l'esquive, ils s'excusent, ils sacrifient l'un d'entre eux, appelé brebis galeuse, plutôt que de diaboliser l'adversaire. Et quand je dis l'adversaire, l'extrême gauche, mais aussi l'ensemble du système. C'est-à-dire que là, je suis d'accord avec Nicolas Dupont-Aignan, c'est un combat frontal. On ne peut pas jouer l'esquive. Il faut désigner ces gens comme et leur turpitude. C'est quand même fascinant de voir qu'un malheureux post Facebook d'un obscur candidat municipal cause plus de tort au RN que 30 ans de turpitude de Jack Lang n'en cause au PS, oui. Ou que l'ensemble des Epstein Files, enfin des dossiers Epstein, n'en cause au système.
Oui. Ou que le meurtre d'un jeune homme n'en cause à LFI.
Voilà.
Alors, sur ces propos.
Mais c'est aussi parce que le RN ne décide de ne pas pointer le PS lorsque, dans ses rangs, il a Jack Lang et qu'il y a des révélations. Il fait comme s'il n'avait rien vu, il passe à autre chose, très poliment. Et lorsqu'il a les Epstein Files, eh bien, il ne s'en saisit pas pour mettre en accusation l'ensemble du système. C'est dommage.
C'est effectivement dommage. On va se quitter sur ces propos. Vous retrouvez dans un instant Thierry Lenz et son invité Alexandre Devecchio du Figaro, qui vient de publier un livre en grande partie consacré d'ailleurs au problème de l'immigration. Donc restez en ligne, restez à l'écoute et en ce qui nous concerne, vous retrouvez Richard de Sèze demain pour Restons Courtois et ainsi de suite. Donc comment il s'appelle, Arthur de Vatrigan mercredi,
Marc Hainaut
jeudi et Marc Baudrier vendredi, et j'aurai le plaisir, si tout va bien, de vous retrouver lundi prochain. À bientôt.
Ça suffit maintenant.